RFI, 7h42, en temps universel. Tout de suite, c'est le journal des sports. Avec vous Antoine Grenier, et on commence comme de coutume avec le prix Marc-Vivien Fauré, le trophée du meilleur joueur africain de Ligue 1 remis par RFI. Et chaque jour, jusqu'au 5 mai, le portrait de l'un des 12 nommés. Aujourd'hui, c'est vous qui vous en chargez, Antoine, pour nous parler de Moses Simon.
Allez, ce même schéma, on passe très souvent par Moses Simon. Il essaie de rentrer entre deux.
Un classique dans un derby, contrôle le long de la ligne de touche, dribble, crochet, frappe dans le petit filet opposé, voilà, du Moses dans le texte. L'attaquant nigérian du FC Nantes sort de sa saison la plus complète chez les Canaries, 7 buts, 9 passes décisives, série en cours. De quoi en faire un solide candidat au prix Fauré aux yeux d'Eric Rabé-Sandratana, le consultant Radio Foot.
C'est un dribbleur, un mec qui percute tout le temps. Il a la vitesse, il a l'intelligence de jeu, il est capable de marquer des buts. Après, voilà, quelque part, le club dans lequel il évolue fait que il y a peut-être un frein. Parce que quand tu joues dans un club qui essaye de se sauver dans une saison comme ça, c'est compliqué. Mais en tout cas, sur ses qualités, il y a rien à dire. Parce que c'est plutôt un bon joueur qui est capable de faire la différence.
Une saison d'autant plus méritoire depuis sa grave blessure avec le Nigeria. Depuis, Simon n'est pas à 100%. Entre petites rechutes et douleurs, il aura passé son année à surveiller son physique, rappelle son entraîneur Antoine Comboiré.
Depuis 4 mois, 5 mois, ben, il ne s'entraîne pas à fond tout le temps. Mais c'est bien parce que c'est un garçon costaud, il est toujours présent, il est fort mentalement pour pouvoir supporter ça. Le principal, c'est qu'il soit avec nous jusqu'au bout et qu'il soit performant surtout.
Chasseur de doutes et élément important de la lutte pour le maintien, à 29 ans, Moses Simon pourrait maintenant s'envoler vers d'autres cieux après 6 saisons au FC Nantes.
Et notre série de portraits des éventuels lauréats du prix Marc-Vivien Fauré qui continue donc jusqu'au 5 mai. Antoine, on continue, nous, le journal des sports avec le CHAN et la manche allée des éliminatoires additionnelles.
Une dernière marche vers le CHAN de cet été au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. L'Afrique du Sud affronte le Malawi à 13h, temps universel, tandis que l'Algérie, elle, sera en déplacement sur la pelouse de la Gambie à 15h TU. Les manches retour sont prévues pour la semaine prochaine.
Chez les jeunes, la CAN U20 et la suite de la phase de groupe.
Ce samedi, troisième journée du groupe A, la Sierra Leone, leader, affronte la Tanzanie, pendant que le pays organisateur, l'Égypte, défie la Zambie à 18h temps universel. Hier, pour la fin de la première journée de phase de groupe, pas de vainqueur dans le groupe C. Le Sénégal et la Centrafrique se neutralisent un partout, tout comme la RDC contre le Ghana. Un point qui satisfait le sélectionneur des jeunes léopards, Guy Boukassa.
On a fait ce qu'il fallait. Alors, dans le temps de compétition, le plus important déjà, c'est de ne pas perdre. Je pense qu'on part ici avec un point face à une équipe bien en place et très très bien organisée. Heureusement pour nous, on a eu un souci mental, mais on a très vite réajusté en deuxième mi-temps, en changeant notre dispositif tactique. Ça nous a permis de rééquilibrer le match et de trouver le contrôle du jeu. Il nous a manqué juste un peu de réalisme en seconde période, et sinon, le match était bien. Pour résulter le gala, non. Je pense que c'était, tout intervient dans une partie du match qui est assez difficile à gérer pour les jeunes. Une première carte. Donc, en termes de gestion, dans le terme de ce type de compétition, le Ghana avait une avance sur nous.
Guy Boukassa avec Olga Massangou.
Enfin, en cyclisme, dernière étape du Tour du Bénin aujourd'hui.
Les 105 km entre Tofo et Cotonou en clôture du Tour.
Merci Antoine Grenier, bonne journée. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquelroy.
Un jour important à Libreville, le général Brice Oligui Nguema prête serment ce samedi en présence d'une quinzaine de chefs d'État africains. Ses réjouissances célèbrent à la fois le rétablissement de l'ordre constitutionnel interrompu par le coup d'État d'août 2023 et le retour du Gabon dans la grande famille continentale. L'Afrique n'a-t-elle pas raison d'y adhérer, Jean-Baptiste ?
Il y a probablement quelque chose à célébrer en dehors des succès personnels du général Brice Oligui Nguema. Avec ses compagnons de poutre, il avait en 2023 mis le Gabon au banc des nations africaines qui les sommettent alors de retourner dans les casernes en rendant le pouvoir aux civils, en rétablissant l'ordre constitutionnel par des élections libres, équitables, crédibles et transparentes. La plupart de ces injonctions se sont vite évaporées. Il n'empêche, ce sont les mêmes dirigeants africains qui vont le célébrer ce jour à Libreville. Avec une telle capacité d'oubli, l'Union africaine serait peut-être plus crédible en admettant une fois pour toutes que les coups d'État ne sont qu'un mode d'accession au pouvoir comme un autre. Le général Oligui Nguema pourrait aussi inspirer d'autres aspirants putschistes.
En quoi consisterait donc cette inspiration ?
Vous commencez par prendre le pouvoir, par les armes. Puis, une fois aux commandes de l'État et de ses moyens, vous vous constituez une clientèle politique. Vous vous présentez ensuite devant les électeurs et voilà votre situation régularisée. Alors, en costume civil impeccable, vous pourrez écumer les sommets sans que nul n'ose vous demander comment vous y êtes parvenu. Quant à votre prédécesseur qui s'est débrouillé pour être renversé, tant pis pour lui, il mérite son sort, le vaincu. Ainsi fonctionne le club des chefs d'État. Peu importe si les coups d'État, comme prône l'Union africaine, compromettent la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que le développement des pays du continent.
Jean-Baptiste, avec près de 95% des voix, Brice Oligui Nguema ne peut-il pas s'enorgueillir d'être réellement désiré par son peuple ?
Oui, ce score époustouflant, presque sans fraude, mériterait même de chaleureuses félicitations. Les Gabonais l'ont plébiscité, il saura mériter leur confiance. Sinon, comme tous les peuples, ils accepteront plus facilement de subir sa politique. Bien sûr, la facilité avec laquelle l'électorat se convertit à de nouveaux cultes laisse souvent songeur. Sous tous les cieux, les peuples ont une telle soif de héros que certains finissent par être victimes de leur propre crédulité, même si on n'en est pas encore là au Gabon. Mais étant donné que les célébrations ont déjà commencé, pourquoi ne pas se réjouir de ce que sur 5 nations africaines passées sous la botte de militaires putschistes depuis 2020, une au moins aura à renouer avec la normalité. Quelle chance ! Car ailleurs, tel autre putschiste, sans passer par le suffrage universel, s'apprête à s'octroyer une rallonge de 5 années de pouvoir, en plus des 4 déjà passées au palais présidentiel, en attendant d'autres prorogations si le peuple le désire. Président à vie, putschiste à bail emphytéotique, qui voudrait ne plus être désigné que comme président de la République. Tous les putschistes ne se valent décidément pas.
Faut-il comprendre que certains putschistes sont dignes d'admiration ?
Il y en a que l'on admire pour avoir mis fin à un régime insupportable. C'est le cas de Brice Oligui Nguema, tombeur d'Ali Bongo, ou de Zine El Abidine Ben Ali qui avait renversé Habib Bourguiba en Tunisie. Cela ne présume rien de ce que sera ensuite leur propre régime. D'ailleurs, Ben Ali lui-même a mal fini. Certains prennent le pouvoir pour nettoyer les écuries et impulser une dynamique politique saine, tel Amadou Toumani Touré, qui, parce qu'il a bien conduit sa transition, reviendra par les urnes 10 ans plus tard. Autre cas emblématique, trop souvent cité ici, faute d'antidote, Jerry Rawlings au Ghana. En 3 mois, il a organisé des élections et rendu le pouvoir aux civils élus. Il reviendra cependant 15 mois plus tard pour finir d'assainir l'économie et initier en 1992 une démocratie exemplaire. Rien en commun avec les putschistes rêvant d'éternité qui craignent tant le suffrage universel.
Merci Jean-Baptiste Placard. Et en ce 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, menace sur l'information, s'arrête ce matin sur l'histoire de la journaliste ukrainienne Victoria Roshina, unique journaliste qui couvrait les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Elle est décédée l'an dernier dans des circonstances troubles sur lesquelles Moscou n'a jamais communiqué. Et c'est dans ce contexte que le réseau de journalistes Forbidden Stories a publié cette semaine une grande enquête sur son enlèvement et ses conditions de détention. Anne Kantner en parle avec Laurent Richard, fondateur de Forbidden Stories, qui nous rappelle d'abord qui était Victoria Roshina.
Victoria Roshina, c'était une journaliste âgée de 27 ans qui était la seule journaliste ukrainienne à oser couvrir les territoires occupés par la Russie. Elle y allait, elle avait déjà été arrêtée par le FSB, elle avait été interrogée brutalement, elle avait décidé d'y retourner à l'été 2023 pour enquêter sur quoi ? Pour enquêter sur un système de détention secret, pour enquêter sur ces milliers de civils ukrainiens disparus dans des prisons en Russie et torturés. Et elle a fini victime de sa propre enquête et on a décidé avec 45 autres journalistes de poursuivre son travail.
Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Alors on a essayé de reconstituer le fil de la vie de Victoria et aussi de sa mort, des conditions de sa mort. On sait qu'elle était partie donc pour couvrir les atrocités commises par les Russes dans ce qu'ils appellent les garages, sorte de chambres à torture, où les civils ukrainiens se retrouvaient entassés par centaines, voire par milliers, pour y être ensuite torturés. Elle voulait nommer aussi et identifier ceux qui étaient responsables de ce système de torture et de détention en Russie. Et elle était partie pour cela, s'infiltrer à nouveau nouveau dans les territoires occupés par les Russes. On sait qu'elle a été arrêtée à l'été 2023 et puis on a totalement perdu sa trace. Son téléphone a été coupé, plus personne n'était en contact. Elle a été officiellement déclarée disparue. Et on a mené donc toute une enquête pour interroger de nombreuses personnes qui avaient été incarcérées puis libérées de ces prisons russes et qui avaient croisé au fil de leur détention Victoria. Et qui nous ont livré des informations sur son passage et on a pu retracer son passage et on a pu déterminer qu'elle avait effectivement passé 8 mois dans la prison Taganrog, qui est une sorte de Guantanamo russe où la torture est pratiquée de manière systématique, massive et ultra-violente.
Jusqu'à ce que son décès soit annoncé à sa famille.
Son décès est effectivement annoncé en septembre 2024. Le problème, c'est que 3 semaines plus tôt, elle était censée être libérée. Il y avait un échange de prisonniers de prévu. Victoria avait même eu le droit d'appeler son papa et de lui dire « je vais bientôt rentrer à la maison ». Elle est revenue finalement dans un sac mortuaire en février 2025. Une autopsie a été pratiquée et lors de l'autopsie, on s'est rendu compte que des organes manquaient. Les globes oculaires avaient été enlevés, le larynx avait été enlevé, d'autres parties avaient été enlevées, visiblement pour masquer les conditions dans lesquelles Victoria avait trouvé la mort. Et donc nous, on a poursuivi son enquête pour essayer justement d'identifier qui sont et qui se cachent derrière ce système de détention, et puis aussi d'enquêter un peu plus sur la structure de cette prison, Taganrog, ce Guantanamo russe, et découvrir comment la torture y est pratiquée.
Laurent Richard de Forbidden Stories avec Anne Cantner dans Menace sur l'information. Que nous évoquent les mots? Comment résonnent-ils en nous? Avant de nous dire au revoir chaque samedi, des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher à Lucie Bouteloup sur RFI. C'est un mot, une histoire.
C'est un mot, c'est un adjectif, c'est un temps et c'est une projection.
On l'a quitté à l'occasion de la sortie d'un recueil de nouvelles. Cette fois, Barbara Carlotti revient en musique, avec un nouvel album, c'est le 7e, son titre « Chéris ton futur », une injonction qui sonne comme un pied de nez à l'actualité et à la morosité ambiante. Et pour cet épisode, c'est tout naturellement que cette grande optimiste a choisi un mot porteur d'élan.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Je vais vous parler du mot « futur ». Déjà, sa sonorité m'interpelle. Il est flûté, il est petit, il y a quelque chose d'un peu étroit dans le futur tel que... Et en fait, c'est pas l'avenir avec son grand A qui ouvre des possibilités. Je sais pas, il y a quelque chose dans le mot futur que j'aime bien parce que je le trouve amusant. Il dresse comme ça une ligne vers l'après, voilà, vers ce qui est en train d'advenir, ce qui est possible en fait, ce qui reste à écrire. Et puis pour moi, c'est aussi la science-fiction. C'est les utopies, les dystopies, et on en fait un peu ce qu'on veut du futur. Il nous emmène aussi vers des possibilités un peu fantasques.
Il vous a d'ailleurs inspiré une chanson, et même le titre de votre album, oui. « Chéris ton futur ».
Oui, je crois que c'est parce que vraiment j'aime la sonorité de ce mot. Il est un peu percussif comme ça. Il y a le fut, il y a le tur. Et puis il interroge sur notre rapport au monde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, qu'on n'a pas envie de refaire plus tard. Et c'est ça, il porte nos élans, il est matière à invention, le futur.
Donc chéris ton futur et soigne bien ton style.
Alors le futur, c'est quand même un temps qu'on arrive à conjuguer assez facilement. Pas besoin d'être un as de la conjugaison.
Oui, en plus c'est simple. Il y a une simplicité dans le mot, il y a une simplicité dans ce temps d'ailleurs. Le futur simple d'ailleurs, on dit.
Et alors il y a le futur antérieur quand même.
Mais le futur antérieur, c'est oui, mais c'est ce qu'on projetait avant. Il y a un peu de nostalgie aussi dans le futur, effectivement.
Mais est-ce que se projeter dans le futur, ça n'empêche pas aussi de profiter du temps présent?
Ah non, je crois pas. Moi, j'ai toujours cette sensation qu'on a un pied déjà dans le futur. Tout est momentané. Enfin, et quand on sépare le temps en 3 parties, passé, présent et futur, pour moi, c'est pas une sensation réelle. C'est-à-dire, il y a que notre esprit, en fait, qui construit ces 3 dimensions. Et on a toujours un pied dans le futur. Donc, la grande expérience de vie, c'est de se dire, OK, cet inconnu-là est génial à accueillir, en fait.
Donc allons de l'avant.
Ouais, allons de l'avant, chérissons notre futur, voilà, pour garder vivante notre capacité à désirer, parce qu'en fait c'est ça le futur, c'est aussi une forme de désir.
D'après le dictionnaire Le Robert, le mot futur est un adjectif qui détermine ce qui appartient à l'avenir, c'est aussi un nom qui désigne une partie du temps qui vient après le présent, mais aussi l'ensemble des formes d'un verbe qui exprime qu'une action ou un état sont placés dans un moment de l'avenir.
C'était un mot, une histoire. une chronique avec le soutien de la Délégation Générale à la Langue Française.
Et Barbara Carlotti qui vient de sortir son 7e album, Chérie ton futur. Vous pouvez la retrouver sur Pure Radio dans le podcast de l'émission De Vive Voix. Et bientôt 8h en temps universel, avant de terminer cette édition des RFI Matin, un peu de musique avec le Jamaïcain Clinton Fearon et son titre Sleepwalking, c'est dans la sélection du mois de RFI.
We're having a situation, a real situation, and I'm not quite sure if we are all checking what this situation is. Hurt is crying out for attention. Uh-huh. Are you ready?
Ces lignes de basse sur les morceaux de grands artistes du reggae, notamment Lee Scratch Perry, le Jamaïcain Clinton Fearon et son titre Sleepwalking, pour refermer cette édition de RFI Matin. Merci à Christophe Pernet à la réalisation de ces 3 heures. On se retrouve demain dès 5h, temps universel, et d'ici là, très bonne journée sur la radio du monde.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Nous vous proposons un voyage au Groenland qui, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, est au centre des attentions. Pour ses minerais critiques, pour les hydrocarbures de l'Arctique, mais ce territoire danois, et qui entend bien le rester, vit surtout de la pêche et développe désormais son tourisme.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Carrefour du Maghreb.
Une histoire de la musique raï.
Juliette Rangeval.
Étendard de la jeunesse algérienne tout au long du XXe siècle, voix d'expression des femmes et des libres penseurs, le raï vibre encore aujourd'hui. Pour s'en rendre compte, visite de l'exposition Yaraï à l'Institut du monde arabe de Tourcoing dans le nord de la France.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI.